franceinter.fr.
Marcel !
Nous ne savons jamais si nous ne sommes pas en train de manquer à notre vie.
Le paradis, car les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
Nous ne savons jamais si nous ne sommes pas en train de manquer à notre vie. Une fois n'est pas coutume, c'est avec cette jolie phrase extraite de Jean Santeuil, le premier livre écrit par Marcel Proust, que j'ouvre cette émission. Et si le sage Michel de Montaigne avait pu répondre au futur auteur dans la recherche du temps perdu, il l'aurait sûrement rassuré, lui conseillant, un bon épicurien qu'il était, de profiter de la vie. Plus de 2 siècles séparent Montaigne de Proust. Le premier est mort en 1592 et le second naît en 1871. Mais les deux penseurs parviennent malgré tout à se rejoindre quelque part entre les lignes. D'abord, ils ont tous les deux cette manie de la phrase compliquée. Ils ont eu aussi le même projet d'écrire la vie. Et surtout, cette même volonté de faire comprendre à leur lecteur qu'il est plus riche qu'il ne le pense et qu'il détient en lui les réponses aux questions qu'il se pose. Des points communs et des divergences entre ces deux maîtres à penser, il y en a beaucoup d'autres et nous allons les découvrir ce soir en compagnie du philosophe Raphaël Antoven.
C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit, dès l'entrée, que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service ni de ma gloire. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention ni artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc, de Montaigne, ce 1er de mars 1580.
Bonsoir Raphaël Antoven.
Bonsoir Laura.
Vous venez de nous lire la première page des Essais de Montaigne. C'est un avis au lecteur où le philosophe annonce le livre qui sera l'œuvre de sa vie, un peu comme la recherche l'a été pour Proust. On se doute que Proust, grand amateur de philosophie, a lu Montaigne, mais il y a quelque chose de très étrange, c'est que parmi tous les philosophes cités dans le livre, alors lui c'est le grand absent.
Oui, il est d'autant plus présent qu'il est absent. Il ne le cite jamais et pourtant son influence est constante. Le travail des essais, le travail de Montaigne. Il y a plusieurs éditions des essais. Les essais ont été écrits de plusieurs manières et ils fonctionnaient par allongeaille. Et allongeaille, c'est-à-dire qu'il intégrait, il incorporait au sein d'une phrase. La phrase enflait chez Montaigne. Donc il incorporait au sein d'une phrase.
Un peu comme Proust avec ses paperoles. Exactement. C'est le même mécanisme.
Exactement. C'est le même mécanisme. Le processus de rédaction de la recherche du temps perdu est un processus en accordéon. Proust, qui eût travaillé différemment, ou peut-être de la même manière, mais avec plus de facilité s'il avait eu un traitement de texte sous la main, fonctionnait par béquets et paperoles. Les béquets sont des pense-bêtes et les paperoles venaient s'ajouter à l'intérieur des phrases et donnaient parfois à des pages une taille démente. Une page fait 14 mètres, par exemple. Ce sont des pages insensées et ils fonctionnent comme ça, par allongeaille. Donc la méthode, déjà, est tout à fait ressemblante, tout à fait comparable. L'intention n'est pas si différente non plus. Au fond, que font-ils l'un et l'autre? Alors, Montaigne se décrit lui-même et en son nom. C'est Michel de Montaigne qui parle de Michel de Montaigne. Bon, mais il se décrit lui-même comme différent constamment de lui-même, en expliquant qu'il ne peint pas l'identité, mais le passage. Il se peint lui-même comme autre que lui-même en permanence, puisqu'il ne croit pas à la catégorie d'identité. Il n'a qu'un nom, son identité n'est qu'un effet de surface. Or, le narrateur lui-même ressemble à l'auteur, mais s'en distingue, et je crois peut-être de la même manière. Il y a vraiment des points communs fondamentaux entre Proust et Montaigne.
Alors justement, on va se pencher sur ces points communs et on va essayer de tracer des ponts entre leurs deux œuvres. Le premier thème qui saute aux yeux, c'est peut-être cette injonction chez l'un comme chez l'autre à saisir le temps. Donc chez Proust, ça vient à la fin, mais il y a cette manière de relativiser en quelque sorte le temps qui passe, le temps
c'est
perdu.
C'est pas de le relativiser. C'est, disons, de dédramatiser le passage du temps, de de ne pas s'en tenir à la tragédie du temps qui passe et qui nous déconstruit, qui nous détruit progressivement, qui fait que dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Donc, effectivement, ils ont en commun ce goût. Alors, chez Montaigne, ça prend la forme d'une jouissance de l'instant, hein. Vivre à propos, c'est notre grand et glorieux chef-d'œuvre. Chez le narrateur, ça prend la forme d'un amour de l'instant, de l'éternité. Le narrateur est l'ami du présent qui passe. Et le futur et le passé, en un sens, lui sont donnés par surcroît. Ils ont ça en commun l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'ils cherchent un remède à la mort, non pas dans l'immortalité, mais dans l'éternité. Ce qui est tout à fait différent. Et ça, c'est un point commun très fort. Même si chez Montaigne, ça prend la forme d'une jubilation dont le narrateur, pour être tout à fait honnête, est un peu à laquelle le narrateur est un peu étranger, en tout cas jubilation physique. Le narrateur a des extases plus spirituelles.
Alors, autre grand thème, cher à Montaigne comme à Proust, c'est l'amitié. Mais alors, j'ai quand même l'impression qu'il le traite de manière assez différente. Donc, pour Montaigne, elle se résume l'amitié à un homme, donc la Boétie, et à une maxime célèbre, parce que c'était lui, parce que c'était moi.
Qui est un Alexandrin.
Qui est un Alexandrin, je ne l'avais pas remarqué, effectivement.
Un Alexandrin avec une césure à l'hémistiche, c'est le plus beau vers de la langue française.
Tout à fait, c'est vrai qu'il est très beau ce vers. Et pour Marcel Proust, par contre, l'amitié est d'emblée considérée comme un malentendu, en tout cas comme un mensonge.
Alors c'est un mensonge, c'est surtout une perte de temps. Ça lui fait perdre du temps, il ne comprend pas pourquoi on s'ennuie à se distraire au fond avec des amis. D'abord, il n'y en a pas beaucoup des amis, et puis ensuite on perd du temps. Et puis surtout, le vrai grief que Proust adresse à l'amitié, c'est qu'elle est beaucoup plus pauvre en signes que l'amour. C'est-à-dire que l'amour, la désillusion amoureuse est incomparablement riche, beaucoup plus riche que l'amitié. Mais surtout, vous avez parlé de la Boétie, Laura, pardon, j'insiste là-dessus, c'est important. Les essais de Montaigne, c'est le tombeau de la Boétie. Le chapitre 28 du livre 1 des essais est consacré à son ami. Le narrateur de la recherche perd un ami précieux.
Alors justement, on va écouter l'extrait juste avant d'en parler. Donc Saint-Loup, le grand ami du narrateur,
Robert de Saint-Loup
est mort à la guerre. Et à la fin donc de la recherche, dans le temps retrouvé, le narrateur se souvient de sa rencontre avec ce jeune homme.
Je me rappelais son arrivée, la première fois, à Balbec, quand, en lainage blanchâtre, avec ses yeux verdâtres et bougeants comme la mer, il avait traversé le hall attenant à la grande salle à manger dont les vitrages donnaient sur la mer. Je me rappelais l'être si spécial qu'il m'avait paru être alors, l'être dont ça avait été un si grand souhait de ma part d'être l'ami. Ce souhait s'était réalisé, au-delà de ce que j'aurais jamais pu croire, sans me donner pourtant presque aucun plaisir alors. Et ensuite, je m'étais rendu compte de tous les grands mérites et d'autres choses aussi que cachait cette apparence élégante. Tout cela, le bon comme le mauvais, il l'avait donné sans compter, tous les jours. Et le dernier, en allant attaquer une tranchée, par générosité, par mise au service des autres de tout ce qu'il possédait, comme il avait un soir couru sur les canapés du restaurant pour ne pas me déranger.
Alors Raphaël, c'est un texte très touchant dans lequel le narrateur se rend compte trop tard de la bonté de Saint-Loup et il mesure qu'il tenait beaucoup à lui en fait.
Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'amitié qu'il porte à Saint-Loup, il faut rappeler que Saint-Loup, c'est un Guermantes. C'est le neveu du baron de Charlus, c'est le fils de Madame de Marsante. C'est un Guermantes, c'est un aristocrate magnifique. Il est sublime et Proust le voit comme une gravure, comme une frise, comme une œuvre d'art. Il regarde son ami comme une œuvre d'art, de sorte que l'amitié sincère qu'il lui porte est constamment tempérée par le bonheur qu'il a à l'admirer. Notamment quand il se tient en équilibre pour aller déposer un manteau sur les épaules du narrateur, le passage auquel il est fait référence dans Le Temps retrouvé, quand il marche comme ça, il le voit comme une sorte de phénomène abstrait presque. Or, quand Saint-Loup meurt, Saint-Loup redevient l'individu, l'être bon, singulier, la bonne personne, généreuse personne, l'admirable soldat, le brave. Bref, il y a un processus intéressant avec la mort de Saint-Loup, c'est qu'il le déséternise au fond. Au moment où il meurt, il redevient la bonne personne, le bon ami, dont l'affection qu'il avait pour lui était constamment atténuée auparavant par le désir qu'il avait de l'admirer. Là, il ne peut plus l'admirer. et donc il se souvient de lui. Et c'est presque en un sens la première fois qu'il a conscience de qui était Saint-Loup, indépendamment de ce qu'il voulait dire ou de ce qu'il pouvait signifier à ses yeux.
Il en a conscience alors qu'il n'est plus là.
Alors que dans les essais, c'est le processus inverse.
Oui,
alors il en a conscience parce qu'il n'en est plus là, vous avez raison, puisque au moment du deuil, c'est la grande expérience du deuil, c'est qu'on ne sent jamais autant la présence de quelqu'un qu'à l'instant où on comprend qu'il a disparu pour toujours. C'est vrai avec la grand-mère, c'est vrai avec Albertine, c'est vrai avec Saint-Loup. Pour Montaigne, le processus est exactement l'inverse. La Boétie mourant, Montaigne lui fait une statue de gloire, un tombeau magnifique. Le chapitre sur l'amitié, où il réactive toutes les pensées antiques, stoïciennes notamment, en particulier Sénèque, sur la question, et aristotélicienne, sur la question de l'amitié. Donc, la Boétie mourant, Montaigne l'élève au sommet de la pyramide. Saint-Loup mourant, le narrateur se souvient qu'il n'était qu'un individu.
Un été avec Proust, Raphaël Antoven, Laura Elmaki.
Alors après ce passage sur l'amitié, à la toute fin de la recherche, il y a ce dernier paragraphe où Proust parle des échasses, et c'est une citation, un hommage peut-être à Montaigne. Est-ce qu'on peut parler d'hommage pour cette phrase?
Je crois que là, on est en présence d'un hommage objectif. C'est-à-dire, autant Proust est influencé par Montaigne, autant il se donne les mêmes préoccupations et il lui ressemble à bien des égards, autant là, je crois vraiment, il l'a en tête quand il dit « comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où tout d'un coup ils tombent, etc. » C'est la fin du livre, hein, c'est la dernière phrase de La recherche du temps perdu. Or, la dernière page des essais reprend la même métaphore.
Raphaël Antoven, je vous propose d'écouter un court extrait de cette très belle page, la dernière de La recherche.
« Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, dont j'avais admiré en le regardant assis sur une chaise combien il avait peu vieilli, bien qu'il eût tellement plus d'années que moi au-dessous de lui, dès qu'il s'était levé et avait voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes flageolantes, comme celles de ces vieux archevêques sur lesquels il n'y a de solide que leur croix métallique et vers lesquels s'empressent des jeunes séminaristes gaillards, et ne s'était avancé qu'en tremblant comme une feuille sur le sommet peu praticable de 83 années, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où, tout d'un coup, ils tombaient.
André Dusselier nous laissait ce très beau texte. Donc ces vivantes échasses, c'est une citation, un hommage à Michel de Montaigne et aussi à la dernière page des essais.
Oui, c'est un passage de Montaigne très connu d'ailleurs. Hein. De même est-il pour nous inutile de monter sur des échasses, car sur des échasses il faut encore marcher avec nos jambes, et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. C'est la phrase de Montaigne, et c'est à cela que Proust pense quand il parle d'échasses. Sauf que c'est un hommage objectif. Clairement, Proust pense à Montaigne. On peut le dire, c'est pas abusif de le considérer. Mais en même temps, il le cite pour dire quelque chose de tout à fait différent. Parce que Montaigne, en parlant des échasses, dénonce l'enflure des hommes qui se prennent pour leurs échasses, c'est-à-dire qui se donnent la taille de leurs échasses.
Donc en fait, on a deux philosophies de l'existence. On a Montaigne qui souligne la vanité des hommes, qui s'en moque.
Parce que Montaigne se moque de ces vies passées à se grandir, de ces grenouilles qui se prennent pour des
bœufs. Mais chez Proust est plus indulgent, au contraire. Il regarde avec tristesse.
C'est que Montaigne a une représentation spatiale des échasses, alors que Proust décrit, pour lui, les échasses sont une métaphore du temps. Il dit, plus on vieillit, plus nos échasses grandissent. Par conséquent, le duc de Guermantes se trouve sur le sommet peu praticable de 83 années. Il est tout en haut des échasses. Donc, comme Montaigne parle de l'espace et Proust parle du temps, au fond, alors que Proust rend hommage à Montaigne clairement, il ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que les hommes, aux yeux de Proust, ne prennent pas une place grandissante dans l'espace. Ils ont même plutôt tendance à se ratatiner avec l'âge.
C'est une image assez pathétique en fait.
Mais c'est dans le temps qu'ils prennent
de la place. Il manque de tomber, c'est quelque chose, c'est vraiment une...
C'est une image terrible. C'est l'image de la décadence, de la tragédie du temps qui passe, et en même temps, cette image est ressaisie par cette métaphore magnifique des échasses qui fait qu'au fond, nous sommes gigantesques d'être si fragile. Le duc de Guermantes est magnifique d'être aussi fragile, d'avoir les jambes flageolantes. Il arrive à convertir la tragédie de l'existence en possibilité de métaphore, en possibilité de beauté. Et c'est ce qu'il opère. Donc, les intentions de Proust et de Montaigne sont tout à fait différentes, alors qu'on est en présence, pour le coup, d'un hommage qui ne fait pas question. C'est certain. Mais il cite... Ils prennent le même exemple, mais ils ne disent pas la même chose.
Je voudrais qu'on vienne du coup sur cette fin de la recherche. Que nous dit Proust exactement sur le temps ? Le temps est sauvé, mais les hommes ne le sont pas.
Vous savez que vous me laissez peu de temps pour répondre à cette question. Une petite remarque, la première phrase de la recherche, tout le monde la connaît. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Les deux derniers mots de la recherche, c'est « le temps ». Si on garde la première syllabe et si on garde le dernier mot, ça donne « longtemps ». Et effectivement, toute la recherche se déploie entre « long » et « temps ». Et il y a à l'intérieur une immense paperole de 3000 pages qui est une sorte de dilatation à l'infini d'un seul mot, au fond, qui est « le long ». Temps, rendre sa longueur au temps, c'est-à-dire comprendre enfin que les hommes occupent une place dans le temps beaucoup plus considérable, autrement plus considérable que dans l'espace. Il m'est difficile de vous en dire plus. En gros, il y a deux façons d'envisager le temps. Soit on l'envisage de façon linéaire et mathématique et quantifiable. C'est le temps qui passe, qui fait qu'on trépasse. C'est le temps qui passe, qui nous passe dessus. Bien. Soit on l'envisage dans sa substance même, ce que le narrateur appelle un peu de temps à l'état pur. L'envisager dans sa substance même, c'est concevoir que le temps est indécomposable et qu'il est l'écrin d'une éternité toujours possible. Ce qui est l'objet de la recherche, ce qui est le but de la métaphore et ce qui est la raison d'être de son émerveillement et de ses souvenirs qui ne sont pas des souvenirs du passé, qui sont des émerveillements face au réel retrouvé.
Ce ne sont pas des souvenirs du passé, il y en a quand même des souvenirs du
Oui, mais c'est un souvenir du passé.
C'est comme le narrateur adulte qui se souvient, par exemple, au début, étant enfant, à Combray, il y a ce rapport au passé qui est omniprésent.
Mais qu'est-ce qu'il retrouve ? Le passage auquel vous faites référence, qui est le passage de la Madeleine, dans la chambre de Tante Léonie, il retrouve le goût d'une Madeleine, en trempant une Madeleine dans du thé, il retrouve le goût d'une Madeleine que Tante Léonie lui faisait goûter dans sa chambre à Combray. Mais la sensation est la même, il retrouve quoi ? L'éternité d'une sensation. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il se retrouve dans la chambre de Tante Léonie. Ce qui compte, c'est qu'il éprouve aujourd'hui la même sensation que dans la chambre de Tante Léonie. Ce qui lui permet, en fait, il comprend pas encore, mais il commence à comprendre, il commence à découvrir la possibilité d'éterniser ce qu'il y a de plus fugace, c'est-à-dire des sensations. Et c'est ça la recherche, c'est un éterniseur de sensations. Des sensations qui semblent disparues, qui semblent les choses les plus éphémères qui soient, sont en réalité potentiellement éternelles quand, par la mémoire involontaire, on arrive à les retrouver.
Merci Raphaël Antoven, et à demain nous parlerons du philosophe allemand Arthur Schopenhauer, l'auteur du Monde comme volonté et représentation, dont la pensée a beaucoup inspiré Marcel Proust. Bonne soirée sur France Inter et à demain.
I found a little plot of land in the garden of Eden. It was dirt and dirt is all the same. I tilled it with my two hands and I called it my very own. There was no one to dispute my claim. Well, you'd be shocked at the state of things. Cleared right out. It was hard and heavy.